Ce soir, nous recevons Fia Ménard à l'occasion de son nouveau spectacle intitulé Saison sèche. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec son luxe, Easy. Avez-vous la sensation, Fia Ménard, que vous avez le sens de l'équilibre? Et que veut dire ce mot équilibre pour vous?
Le sens de l'équilibre, c'est de l'avoir cherché depuis très longtemps. Finalement, peut-être dès le début, parce que le choix et l'entrée dans la question de l'art, c'est faite par la jonglerie, et que la jonglerie, c'est une question en permanence de maintenir en équilibre quelque chose dans l'espace. Et en même temps, c'est une vraie réponse aussi, c'est que à cette époque, vers l'âge de 18 ans, encore dans l'adolescence, la question de trouver un équilibre dans une société était la question la plus incroyable. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, j'aime le déséquilibre. J'aime le déséquilibre comme la marche est un déséquilibre. C'est de rappeler que c'est ça la vie, en fait. C'est au moment où on sait maintenir un équilibre, réussir à se juste se soutenir, peut-être en suspension, pour savourer le déséquilibre. Alors, j'aime cet endroit, finalement, de passage, parce que c'est l'un vers l'autre. L'équilibre n'est jamais qu'une transition.
Mais on le possède naturellement, cet équilibre, ou faut-il beaucoup d'exercices à la fois de méditation et de recherche corporelle pour y parvenir?
Non, je crois que c'est un état de conscience. Je crois que c'est un état de conscience de se dire, mais nous, êtres humains, nous ne sommes que des tiges plantées ou des petites aiguilles plantées sur une planète ronde et que nous sommes toujours finalement perpendiculaires à cette planète. Donc nous sommes cet équilibre à l'intérieur d'un cosmos. Et au moment où on lève la tête vers le ciel et qu'on regarde finalement le ciel ou l'espace, les étoiles, on le trouve cet équilibre. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nous ne sommes qu'une infimité tellement petite, tellement minuscule, microscopique, macroscopique, que c'est à ce moment-là où on conscience, dans ce cas-là, l'équilibre, on sait ce que c'est.
À quand remonte votre premier souvenir d'enfance de plénitude corporelle, Fiaménard?
Alors c'est marrant parce que la plénitude, ce serait l'oubli du corps. Donc ça veut dire que peut-être le moment où l'oubli du corps se fait dans l'enfance, c'est que mon père était toujours passionné des étoiles et qu'il a donné ce goût très tôt de regarder la nuit dans la grande fraîcheur, notamment l'hiver, parce que c'est quand même le moment où le ciel était le plus clair, de regarder le ciel et donc regarder les étoiles, et qui est un moment où le corps ne se pose plus, on a une sorte d'intégrité, ce sont nos yeux qui se gorgent. Et alors dans ce cas-là, peut-être que c'est le moment où le corps ne se pose plus de questions. Peut-être c'est la première fois. Après, bien sûr, je pense que allant, évoluant dans l'âge adulte, on comprend ça. Mais en enfant, en tout cas dans l'enfance, j'ai vraiment souvenir incroyable d'être allongé dans l'herbe avec une couverture que ma mère nous emmitouflait dedans en disant « N'attrapez surtout pas froid et regardez les étoiles toute la nuit ». Ça, c'est l'oubli du corps. C'est le moment le plus beau, parce qu'on a seul coup, on comprend que le corps sert à observer, à être d'un seul coup aussi récepteur.
Vous étiez agile avec votre corps?
J'étais agile avec mon corps, je crois que je le suis encore d'ailleurs. Je pense qu'en vieillissant, on l'acquiert aussi, de manière moins directe. Mais oui, j'étais très agile. Alors bon, ça ne m'empêchait pas de me retrouver régulièrement à l'hôpital pour quelques fractures, parce que bien sûr, j'adorais défier déjà la loi de la gravité, ce qui me coûtait parfois quelques jeux d'équilibre avec mon frère, qui en général finissait par une sorte de blessure. Mais l'agilité, oui, c'était déjà quelque chose, grimper sur un rocher, jouer dans une rivière, surtout s'il y avait des remous, surtout s'il y avait des rapides, s'il y avait du mouvement, savoir sauter d'un rocher à l'autre, oui. Mais je crois que tout enfant, non? Tout enfant, l'enfant, sa grande liberté, c'est ça, c'est de défier l'espace.
Ben, tout enfant a des rêves. Est-ce que vous aviez rêvé, dans l'enfance, à devenir jongleur?
Pas du tout.
Pas du tout. On peut être ébloui par un spectacle de cirque, et puis tout d'un coup avoir sa vie bouleversée. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Non, parce que le cirque, je l'ai fréquenté comme enfant, vivant à l'époque à la campagne, d'un petit cirque qui passe, et puis on va voir les numéros dont finalement on ne jauge pas tellement de la qualité. Non, l'enfance, j'étais absolument persuadé d'aller en espace. J'étais déjà nourri
cosmonaute.
Complètement. Ah oui, cosmonaute. C'était l'évidence pour moi.
C'était banal, vous l'avouez.
Non, c'était pas banal, mais c'était drôle, c'était déjà relié à un objet. Chez mes parents, il y avait une télé, elle était noire et blanche, et je me souviens que cette télé, elle avait été achetée pour voir le premier homme sur la Lune. Et cette télé, symboliquement, elle représentait quand même cet espace un peu... On avait acheté cette télé pour cet événement. Et le fait aussi d'être sans arrêt très rêveuse et regarder les étoiles, et de ce père qui sortait le télescope et montrait la Lune, montrait telle planète, l'alignement. Et quelque part, je me souviens très bien, il y avait un bibliobus qui passait dans ce petit village et j'avais pris un livre de Carl Sagan, qui était quand même voilà la référence. C'était pas un livre pour les enfants. Mais moi, j'adorais, parce que finalement, ce n'était quoi? Ce n'était que des planètes, des espèces de... Et quelque part, c'était aussi, pour moi, la possibilité complètement de me dire, mais j'étais absolument certaine d'aller dans l'espace. Peut-être que d'ailleurs, j'attends d'aller dans l'espace, peut-être.
Bah, ça va devenir banal, comme vous le savez maintenant.
Peut-être.
Faut être très riche, c'est peut-être votre cas.
Non, je crois que je vais essayer un autre moyen. Je sais pas. Il y a d'autres moyens, j'espère.
En tout cas, aller dans l'espace, quand on est enfant et souhaiter le faire, ça veut dire choisir la pesanteur, donc la sortie du corps, en quelque sorte, le dédoublement du corps. Quand avez-vous su que vous aviez un corps, Fiaménard ?
Je l'ai su au moment où il se pose en problème, où il se pose en question. Je l'ai su au moment de la préadolescence, c'est-à-dire au moment où l'enfance vous sépare. Au moment où l'enfance n'est plus la distinction, où d'un seul coup il y a une vraie distinction, on dit garçon, fille. Et là, avant vous n'êtes que des enfants, tout est mélangé, et d'un seul coup on vous demande, presque par anticipation, d'avoir une adolescence avant l'adolescence, et donc d'assumer le rôle dans lequel votre genre vous dit. Donc c'est ce moment-là où la première confrontation se fait, qu'elle se fait notamment par une sorte d'affirmation au moment où on va vous appeler petite fille et que vous dites « non, je suis un petit garçon » et que cette affirmation se fait par le corps. Par d'un seul coup, le fait que oui, vous avez un corps différent avec un petit pénis, qu'on vous fait remarquer que vous êtes un petit garçon, donc que vous êtes un prince, que vous êtes celui qui va faire, notamment bah, voilà, aller sur la Lune ou aller dans l'espace, c'est quand même... pour un garçon, c'est un peu conquérir comme on était un prince et on allait conquérir des territoires. Donc c'est ce moment-là, la préadolescence, fin de l'enfance, où d'un seul coup le corps se projette à moi avec une réalité terrible de dire qu'est-ce que ça veut dire être un garçon ? Qu'est-ce que c'est que ces codes ? Mais moi en fait, c'était des codes où tout de suite il fallait apprendre quelque chose, c'était comme l'école. Il fallait d'un seul coup intégrer quelque chose et un apprentissage dont je n'étais pas du tout conscient de me dire mais ça sert à quoi en fait ? Ça sert vraiment à quoi ? Et le corps là à ce moment-là se projette en disant là vous le regardez pour la première fois, vous le regardez dans un miroir, on vous affirme que vous êtes un garçon.
Et vous acceptez ce qu'on dit de vous ? Que vous êtes un garçon ?
Je pense qu'à cette époque-là, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'accepte, mais en même temps, il y a une sorte de me dire, mais je peux continuer à jouer à autre chose ? Parce que c'est ça. C'est-à-dire, dans l'enfance, on dit, ouais, d'accord, je veux bien faire ça, mais je peux jouer quand même à ça. Je peux continuer à faire ça. Donc, on ne le prend pas tellement au sérieux. Je crois que je l'ai pas pris au sérieux. Je l'ai pris au sérieux plus tard, au moment où finalement la question du désir, la question de la transformation réelle du corps, quand la pilosité arrive, quand d'un seul coup on vous demande d'avoir un comportement affirmé, quand il faut correspondre finalement à quelque chose qui va devenir une sorte de référence. Où là, d'un seul coup, vous comprenez que ça vous demande un travail très particulier dont la définition n'est pas forcément bien faite. C'est que c'est presque d'un seul coup où là, vous n'êtes plus enfant. Vous n'êtes plus enfant et où vous demandez « donne-moi la bonne raison, donne-moi la bonne raison d'être ça ». Sauf qu'on ne l'a pas conscience, on le prend conscience beaucoup plus tard.
Aujourd'hui,
on le dit pas en mots,
on le
cache.
Et on ne l'exprime pas à ses parents ni à ses copains.
Non. Non, parce qu'en plus, je pense qu'aujourd'hui, avec le passé, je vois bien que aujourd'hui, ce qu'on peut mettre comme notion de fraternité, à l'époque, je n'en ai absolument aucune conscience. Les copains sont des copains, on fait des jeux, on fait du faire, on fait les choses. On ne parle pas de l'intime. L'intime n'est pas du tout le sujet entre petits garçons. Peut-être quand on est tout petit. Mais après, une fois qu'on est adolescent, non, on doit surtout bien être présent, à s'affirmer face à l'autre, avec l'autre, faire des choses. Sauf que on les fait et dans la plus grande solitude, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui fait que je perds le rapport d'une simplicité que j'avais? Donc c'est sûr que pour une phase d'enfance, j'acceptais assez bien ma situation de garçon jusqu'à, en effet, arriver à, voilà, 11, 12 ans où là, vous avez vos premières érections, vous avez vos premières sensations que votre corps réagit à quelque chose qui est un désir et que vous ne comprenez absolument pas. Et qui vous affirme qu'à un moment, il faut vivre avec ça. Et ça, c'est quelque chose de très étrange. Mais l'étrange, c'est quelque chose que vous pouvez, je me souviens très bien de le partager avec ma mère, une tentative, mais c'est un réconfort qu'on vous offre. Le réconfort n'est pas une explication. On vous dit, ça va, c'est pas grave, ça va pas mal, ça fait pas mal ça, non. Mais vous n'avez pas vous-même la réponse. Vous n'avez pas vous-même la réponse à votre propre solitude face à cette situation d'incompréhension. Et plus vous avancez dans cette adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, vous êtes bien confronté, notamment pour moi, à cette époque-là, hein, il faut se rappeler, début des années 80, la pandémie du sida, qui est un moment où vos désirs font que, lorsque votre regard est aussi bien accroché par celui d'une personne, une femme, mais aussi parfois du désir d'un homme, d'être confronté à une situation où vous dites « est-ce qu'on peut aimer les deux ?» mais dans une société dans laquelle où j'étais, ça n'existait pas, la question de l'homosexualité. Ou vous êtes finalement aussi face à cette situation. À l'époque, on parlait quand même du cancer des homos, on parlait du sida, et c'était comme nous voler l'amour. Ça voulait dire que le regard que je pouvais avoir parfois sur un garçon que j'aurais pu désirer était un désir morbide, parce que ça voulait dire que c'était la mort. Tout ça, ce sont des éléments qui, dans la construction, vous poussent à la solitude, à une question de ne jamais dire, ou plutôt de garder l'essentiel, de n'en dire qu'une petite partie.
Donc vous continuez à jouer au garçon pendant toutes ces années-là?
Oui, je continue à jouer.
Vous êtes un garçon?
Je pense que j'ai été un garçon.
Et maintenant?
J'ai essayé de l'être, mais je suis une femme, ou en tout cas une femme en devenir. Donc avec aussi cette idée que en effet cette adolescence, c'est là où s'est joué complètement ce rapport d'accepter une partie du corps et de ne pas vouloir la supporter, de ne pas l'accepter au bout d'un moment et de se dire mais je vis pas en fait. Je ne vis pas avec ce corps. Ce corps n'est pas celui dans lequel je me sens. Donc c'est d'un seul coup comment on met le mot genre. Le mot genre d'ailleurs arrive très tard. Pour moi, il arrive peut-être bien à la trentaine. C'est quand même très très tard, parce qu'il n'existe pas. Il faut vraiment une longue recherche pour arriver à un moment au fait que le genre soit quelque chose en lui-même. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est pour moi l'endroit de la plénitude. C'est mon cosmos à moi. C'est de comprendre que trouver son genre, c'est un voyage. C'est un voyage qui vous ramène à une vraie densité. C'est de dire, ok, j'ai pas choisi de naître, j'ai pas choisi le point de départ. Par contre, je commence à maîtriser quelque chose. C'est comment je veux aller jusqu'à la mort. Donc, c'est un chemin vers Thanatos, mais c'est un chemin glorieux. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est, il se nourrit. Il se nourrit des rencontres et des expériences. Et l'affirmation ou le fait de trouver son genre, c'est aussi s'apaiser. C'est pour ça que je dis souvent par provocation, si le monde changeait de sexe, si tout le monde changeait de sexe, peut-être que la paix serait simple à trouver. Parce que peut-être que l'apaisement est là.
C'est en tant que garçon que vous avez commencé votre itinéraire artistique en signant donc Philippe Ménard. Et c'est en tant que garçon, avec votre corps de garçon, votre savoir-faire de garçon, votre maîtrise de garçon, que vous êtes devenu jongleur. Est-ce que toute cette période-là de révélation de vos propres dons vous a permis de comprendre l'union du corps et de l'esprit?
Oui, c'est sûr aujourd'hui pour moi que, et d'une larme à sauver, parce que c'était une porte aussi d'entrée dans la vie, et non pas une porte de sortie, une vraie porte d'entrée. Une réappropriation du corps, ou d'un seul coup, parce que vous commencez à faire des gestes et vous apercevoir que vos gestes, ceux qui sont les plus valeureux pour vous, sont ceux qui viennent dans les moments où, après une longue méditation, une longue recherche, une pratique, vous apercevez que vous assumez des gestes et que votre corps est beaucoup plus libre que vous ne le pensez. Que votre corps peut exprimer énormément. Que ce corps-là, pendant toute cette époque de garçon, a été dans la maîtrise, et celle de la virtuosité. Ça voulait donc dire aussi de se montrer. Et c'est aussi parce que je me montrais, parce que je devais montrer ma virtuosité, que j'ai creusé en dessous comme une cavité. Que cette cavité a fait, d'un seul coup, apparaître de plus en plus, mais qu'est-ce que je veux prouver? Non, je veux être. Et cette cavité a fini par finalement s'effondrer, laisser paraître la personne, apparaître la personne.
Vous étiez un corps savant et finalement cette ascèse par le déploiement artistique de la virtuosité vous a permis de comprendre que vous vouliez aller plus loin que ce savoir-là.
Oui, parce que l'art c'est du temps. L'art c'est une épreuve du temps. C'est une épreuve où on se dit on va y arriver, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. On est dans une perméabilité en permanence. Et chaque influence, chaque regard, chaque chose que vous lisez, chaque chose que vous regardez, chaque chose que vous éprouvez reste. C'est comme si d'un seul coup vous deveniez un filtre et vous gardez les meilleures choses. Vous gardez les choses et d'un seul coup, ces choses que vous sentez être les meilleures vous permettent de vous débarrasser de ce qu'il y a de plus démonstratif, celui qui vous permet d'être dans la représentation de la société. Et au moment où vous comprenez à quel point il ne suffit de certains gestes, de quelques musiques, de quelques pas, de quelques mots, pour trouver à un moment la définition de ce que vous êtes et de trouver que ça, vous allez pouvoir le développer d'une manière incroyable pendant des années. Donc une libération, c'est comme si vous d'un seul coup vidiez un énorme placard et que vous ne repartiez qu'avec un tout petit sac, avec le strict élémentaire, mais vous savez que ce strict élémentaire va vous permettre de voyager.
En fait, vos métamorphoses artistiques et votre changement d'identité sexuelle, Fia Ménard, vont de pair. C'est-à-dire que vous avez fait de votre propre réflexion et de votre propre pratique sur votre corps le sujet principal de la plupart de vos pièces et de votre vie d'avant, que ça soit quand vous étiez circassien, jongleur, etc. Comme ce que vous faites aujourd'hui en tant que metteuse en scène à la fois de chorégraphie, mais aussi d'opéra.
Oui, parce qu'on n'échappe pas à la permanence de son corps. Et pour toute personne qui va travailler à partir de cette situation, parce que je pense que être dans une question d'identité, c'est à un moment observer autour de soi qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas l'autre. Et il y a une énorme jalousie. L'énorme jalousie, c'est de ne pas être cisgenre, donc de ne s'être jamais posé de question d'identité. Et qu'à partir de là, vous passez votre temps à observer en disant « mais qu'est-ce qui fait que je ne suis pas ça ?» Que je suis sans arrêt imprégné de ces questions. Alors, moi, par finalement cette porte d'entrée de l'art, ça a été sans arrêt ce qui m'a renvoyé des questions le possible, en me disant « ok, je ne suis pas cisgenre, d'accord, mais alors je vais en nourrir cette possibilité. » J'ai appris les gestes des hommes, j'ai appris à être un homme dans la société patriarcale, j'ai appris tout ça.
Alors que vous l'étiez?
Je l'étais, mais aujourd'hui je peux dire je l'ai appris. Parce que aujourd'hui,
en tant
que femme... Et
vous n'avez pas appris à être femme, alors que vous l'êtes devenue par opération.
Je le suis devenue par opération, mais je le suis devenue aussi par transpiration. C'est-à-dire par imprégnation, par ressenti, par cette possibilité non pas d'avoir l'enseignement à qui on vous dit il faut que vous fassiez ça, mais l'observation, de comprendre, d'observer ce qu'est l'identité du féminin dans une société, ce que veut dire la sororité, ce que veut dire la fraternité. Toute cette position-là qui est d'un seul coup de devoir vous faire vous-même ce chemin. Parce qu'en plus, en tant que personne trans, par un parcours médical, on vous pose la question. Pourquoi ? Pourquoi ceci ? Est-ce que vous, enfant, vous jouiez à la poupée ? Non, je jouais à la guerre. J'étais dans une tranchée qui était un fossé et la route était un no man's land. Donc, quelque part, il n'y a pas de raison. La raison, c'est que d'un seul coup, on s'aperçoit que on n'avait pas le choix. La permanence du corps faisait que on voyait un petit garçon, on apprend au garçon d'être un garçon, de se comporter en garçon, dans une société de pouvoir. À partir de là, au moment où on se défait de cette notion-là, on s'aperçoit qu'on l'a. On a appris. J'ai été un bon élève. Sauf que, à un moment, j'ai été l'élève qui a refusé de mettre en pratique ce qu'on lui a appris en disant « ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas ça. Je suis autre. Je suis une autre personne qui se définit dans un autre corps qui semble être plus celui du féminin, celui d'une femme. Et d'un seul coup de s'y sentir, oui, aujourd'hui je sais pourquoi je suis en train de devenir une femme. Parce que à cet endroit-là, j'y trouve quelque chose du sens, d'un sens profond, notamment du être. Là où je disais que dans la fraternité j'ai connu le faire, dans la sororité, je découvre le être. Et le être, c'est l'essentiel. Être. Ne pas être au dernier jour avant sa mort et se dire « mais je n'ai jamais vécu ». Là, j'ai vécu, j'aurais même fait un tour d'horizon.
Alors, toutes ces thématiques se retrouvent ô combien magnifiées sur le plateau du théâtre de votre dernier spectacle, qui s'intitule « Saison sèche » et qui commence plus que sèchement. C'est votre corps qu'on voit au tout début du spectacle, Fia Ménard, vous vous avancez vers les spectateurs, vous faites la timide, vous l'êtes d'ailleurs peut-être, et puis après beaucoup d'hésitation, tous les spectateurs, nous sommes accrochés à vos lèvres, on se demande ce que vous allez sortir, rien n'a encore commencé, et vous dites quoi ?
Je te claque la chatte. Alors je dis une insulte. Je dis une insulte parce qu'elle est nécessaire. Je dis une insulte parce que dans la salle, il y a des hommes et des femmes. Il y a dans cet espace regroupé du théâtre une société. Et cette société, il y en a un à qui j'envoie cette insulte et qui se pose peut-être la question « Mais pourquoi elle nous dit une insulte comme ça ? Est-ce que j'aurais dit quelque chose un jour dans ma vie ? Est-ce que j'aurais insulté une femme ? Est-ce que, oui, en effet, est-ce que j'aurais pas eu un geste déplacé ? Est-ce que j'aurais pas eu une pensée déplacée ? Alors que les femmes, elles, prennent cette insulte comme toutes les insultes ou toutes les remarques de rue qu'elles auront entendues ou toutes les formes de misogynie auxquelles elles auront dû être témoins. Alors, oui, je clive la salle. Je clive la salle parce qu'à ce moment-là, nous allons rentrer dans le sujet même. Qu'est-ce que ce pouvoir ? Qu'est-ce que cette assignation ? Qu'est-ce que c'est que cette perpétuation d'une soumission et d'un pouvoir qui se donne, qui se transmet, qui s'interroge régulièrement ? Alors là, on est dans une phase d'interrogation, parce que le MeToo a ramené une phase d'interrogation, mais qui serait éteint, et régulièrement, il faut ramener la question, oui, la question de l'égalité, qu'est-ce que c'est ? Oui, la question d'être un corps et de ne pas être un objet. Oui, qu'est-ce que c'est d'être dans le consentement ? C'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire à un moment, oui, le désir, c'est quelque chose, mais ne pas désirer, c'est aussi quelque chose, et l'un comme l'autre, nous devons gérer ça. Et nous le gérons d'une manière assez simple. Je vois rarement les femmes prendre à partie les hommes dans la rue en leur disant « tu as un beau cul ».
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Fia Ménard, « Si tu t'en vas », interprété par Aqua Serge.
Si tu t'en...
Nous venons d'entendre la chanson de Léo Ferré « Si tu t'en vas » interprétée magnifiquement par Aqua Serge. Avez-vous craint d'être abandonné, Fia Ménard ?
Oui. Mais je crois encore. Qui n'a pas peur d'être abandonné ? Bien sûr, la question du coming out est cette question de l'abandon la plus forte. On sait ce que c'est, on en a tellement entendu parler, se dire « tiens, est-ce que je peux assumer ? Est-ce que je peux dire à mes proches ? Est-ce que je peux dire à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment que je suis autre ?» Mais que je suis autre, mais je suis la même. Donc ça veut dire comment réussir à interpréter, mettre les mots, dédramatiser, offrir la possibilité de comprendre ce qui s'est passé et surtout de dire « vous n'avez aucune faute ». Vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste là. Vous êtes mes proches, mes parents, mes amoureuses, mes amoureux. Mais je dois être moi. Et être moi, c'est peut-être ce que vous aurez à vivre de mieux. c'est d'un seul coup la sincérité du dialogue. Donc, c'est ça le drôle de paradoxe, c'est que votre peur de l'abandon va avec celui de la volonté de la sincérité. Être sincère nous pose quand même cette question, est-ce qu'on peut dire sans choquer, sans se retrouver seul? Et bien sûr que l'abandon, c'est aussi celle qui fait écrire cette peur. Parce qu'on a envie de laisser quelque chose, on a envie d'être comprise, on a envie de pouvoir tirer une expérience. Donc l'abandon, pour moi, c'est bien sûr, c'est quelque chose du quotidien. Mais je crois que toute personne trans, ça rappelle bien que notre question de transition est une question d'amour, que c'est une volonté d'être sincère et donc de pouvoir aimer et être aimé. Et qu'à ce moment-là, on prend le risque. Et prendre le risque, ça veut dire à un moment dire « Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que demain, je ne vais pas me retrouver seul et devoir recommencer ?» Mais non. Non. Je pense que c'est justement peut-être de savoir traduire les mots et de dire à un moment, mettre les mots qu'il faut, prendre le temps, faire de la pédagogie. Même si ce n'est pas la chose la plus belle, mais il faut passer parfois par la pédagogie et réussir à mettre les mots juste en disant, ça va, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour moi. Par contre, ça va être chouette après. Dites-vous qu'on va vraiment se parler.
Alors Fia Ménard, vous êtes passé de la jonglerie la plus exceptionnelle à l'état de performeuse, de metteuse en scène, d'écrivain, d'intellectuel sur votre propre histoire, mais aussi sur tout ce qui a rapport de près ou de loin au corps, au body art. Je vous propose d'écouter, vous avez des fans partout, vous avez fait aussi il y a un an et demi la mise en scène d'un merveilleux opéra à partir des livrets de Rameau à l'Opéra Comique à Paris. Et là, on sent bien que vous êtes attiré par la brûlure de la beauté. Vous avez des fans partout dans le monde. Parmi eux, il y a quelqu'un qui dirige en ce moment même le Théâtre National de Bretagne, qui est aussi metteur en scène depuis pas mal de temps, qui s'intéresse beaucoup au corps et aux métamorphoses du corps. Il semblerait qu'il vous connaisse depuis longtemps. Écoutez ce que dit de vous Arthur Nosiciel.
Moi, je dois dire que j'ai connu Fia dans un moment un peu particulier de sa vie, puisque... à ce moment-là, elle allait justement vers une nouvelle vie, ou en tout cas, elle allait faire des grands changements dans la sienne. Je suis content d'avoir connu à ce moment-là, pour avoir un peu vécu justement, même de loin, cette évolution qui l'a transformée comme personne, et artistiquement, forcément. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie qu'elle soit artiste associée au TNB, parce qu'évidemment, j'avais envie à la fois d'accompagner ses projets, sa singularité, mais aussi parce que, justement, son parcours, son expérience, qui sous-tend sa démarche, déplace aussi les spectateurs. Et c'est quelqu'un qui a réussi à faire entendre sa voix, la voix d'un parcours douloureux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de gens comme elle, dont l'engagement artistique relève d'une vraie nécessité. Et alors où je trouve qu'on a un peu tendance à banaliser le mot « performance », c'est important d'avoir des artistes comme elle dont l'engagement physique est à la hauteur de ce que ce mot veut dire. C'est à partir de cette colère, de cette rage, de cette mélancolie, qu'elle produit quelque chose qui lui ressemble. Et comme elle est unique, ce qu'elle fait est unique. Voilà, c'est quelqu'un qui a su transformer sa souffrance en lumière. Et aujourd'hui, moi j'aime sa joie, j'aime son insolence, son plaisir à séduire. C'est quelqu'un d'inspirant, avec qui on s'amuse aussi beaucoup. Tout ce qu'on aime, quoi. Et c'est quelqu'un qui a choisi son corps, en tout cas qui a su agir sur son corps, à elle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui lui fait peur physiquement. Il n'y a pas grand-chose qu'elle ne saurait pas traverser. Ce qu'elle produit à cette force, c'est parce qu'on s'est un peu déshabitué de cet engagement que des artistes peuvent avoir sur le plateau. Il y a eu une époque où on parlait de body art, on parlait de choses comme ça, où il y avait un engagement physique extrême des artistes dont le travail sur le corps et avec le corps était l'enjeu même de l'œuvre, devenait l'œuvre même. Et peut-être que ça l'a un petit peu perdu et que Fia le ramène avec elle, la puissance qu'on peut sentir dans son travail et qui nous parvient de manière quasi magnétique, est faite de tout ce qu'elle a dû activer pour traverser ce qu'elle a traversé. Et c'est à la fois habité, je dirais, par quelque chose de très mélancolique, de très douloureux, de très rageur même. Mais aujourd'hui, cette traversée qu'elle a faite lui permet, tout en gardant cette puissance, peut-être aussi de la canaliser dans quelque chose qui est à la fois plus ouvert. Moi, je le dirais comme ça, ouais. Et puis sinon, est-ce qu'elle change les fleurs de ses cheveux en fonction de la saison ou de ses humeurs ou en fonction de quoi ?
Alors voilà, pour nos auditrices et nos auditeurs, je ne vous ai pas décrit, Fia, mais c'est vrai, je sais pas depuis combien de temps. Moi, je vous ai, à chaque fois que je vous vois, vous avez des fleurs dans les cheveux. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce soir, dans ce studio, vous avez des fleurs roses, beige, fuchsia, marron et noir, comme une sorte de petite couronne. Vous faites un peu la reine d'Angleterre quand elle était encore un peu sexy.
Alors peut-être que j'essaierai de pas les porter trop vieilles. Mais non, je les porte depuis longtemps. Ouais, je crois que ça fait au moins 10 ans. Je crois que ça fait... Oui, ça fait au moins 10 ans.
Quand vous étiez garçon, vous mettiez pas de fleurs dans les cheveux.
Non,
mais il y a pas beaucoup de filles non plus qui se mettent des fleurs dans les cheveux.
Non, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que je vois aussi celles qui se mettent des fleurs dans les cheveux, c'est les femelles. Et elles mettent des couronnes. Alors je vois très bien régulièrement, par exemple dans les transports en commun, les trains, et tout ça, ou les avions, parce que souvent les avions, on me demande de retirer mes fleurs et très souvent je dis mais est-ce que vous êtes coiffeur et quand on me répond non, alors dans ce cas-là, vous savez que j'ai pris des heures. C'est fou, hein, ça m'a demandé 5 minutes. Mais je vois bien qu'il y a une sorte de regard en disant « Est-ce que c'est une fémène ?» Je le sens comme quelque chose d'une sorte de peur, un peu, alors suivant les regards ou des regards amusés. Mais c'est en effet une sorte d'endroit en disant « Mais c'est presque l'image que mon cerveau est fleuri. » Je passe mon temps à mon imaginaire est une sorte d'endroit où je canalise. Alors peut-être que je les mets dans mes fleurs. Peut-être que ça se canalise dans mes fleurs. Peut-être que je repense à Joseph Beuys qui était toujours avec son chapeau et son manteau en laine. Peut-être que c'était pour canaliser. Mais voilà, ce que dit Arthur, c'est beau, c'est très très touchant parce que tout ça, on n'en a pas forcément totalement conscience. Oui, le corps, j'aime l'exprimer dans sa forme la plus sincère. Et sa forme la plus sincère, c'est de rappeler que ce sont ses combats les plus beaux. Alors oui, il y a quelque chose de la performance. Oui, aussi bien mon corps ou celui des interprètes, comme ceux de Saison Sèche, où je demande à ces artistes, interprètes, d'offrir leur corps au spectateur, d'offrir la possibilité que le spectateur s'imagine dans leur corps et qu'il puisse vivre quelque chose, qu'on soit plus là en train de montrer, mais bien de vivre. Et c'est ça la chair. Cette empathie, j'aime chercher l'empathie, le symbole. Alors peut-être que ces fleurs dans les cheveux sont une forme de symbole, mais c'est cet endroit-là qui est pour moi essentiel aujourd'hui, d'offrir au spectateur la possibilité de vivre quelque chose qu'il n'oserait pas faire de lui-même au travers de mes spectacles.
En même temps, comme l'a dit Arthur Nouzicel tout à l'heure, il y a un sentiment de rage, il y a une sorte de révolte. Sans parler de message, il y a quand même une sorte de manifeste à l'intérieur de votre engagement artistique et ce depuis pas mal de temps, Fia Ménard. C'est particulièrement vrai de ce spectacle intitulé Saison Sèche. Ça l'était aussi de l'avant-dernier spectacle qui avait été montré au Festival de Montpellier Danse, La Maison Mère, où là vous étiez en scène. Et bizarrement, alors vous êtes aussi une penseuse de la matière, bizarrement, les deux spectacles, aussi bien Saison Sèche que La Maison Mère, et je pense pas attenter au plaisir des spectatrices et des spectateurs si je dévoile qu'à la fin de ces deux derniers spectacles, tout s'effondre, comme si vous appeliez à une nouvelle civilisation.
Oui, alors souvent on me le reproche en me disant « mais bon, ça finit mal ». Je dis non, la destruction, le grand avantage, c'est que regardez, les êtres humains sortent vivants et qu'il faut reconstruire. Reconstruire. Ne pas se dire que c'est fini, que ce soit plié, que les choses peuvent pas changer. J'ai un très grand souvenir, comme ça, pour moi, d'un chorégraphe qui s'appelle Robert Siegfried, qu'on voit moins, qui faisait partie du groupe Émile Dubois de Jean-Claude Galota. Il a commencé à danser, il avait presque 50 ans, je crois. On aurait pu dire que c'était la fin de sa vie. Jamais commencer on commencerait pas une carrière de danse. Mais si, il commence une carrière de danse, cette chorégraphe. Ça veut donc dire que c'est jamais plié, c'est jamais fini. Alors oui, en effet, aussi bien dans Maison Mère que dans Saison Sèche, on finit par une destruction ou une démolition ou des mondes qui s'effondrent d'eux-mêmes sur tout ça et qui laissent l'espoir que ces mondes s'effondrent, mais l'être humain reste. Il reste là et quelque part, il reste très vivant, même s'ils sont très abîmés parce qu'ils sont recouverts un peu de beaucoup de choses, de mélasse et d'autres choses. Mais ils ont franchi le plus dur, se défaire de quelque chose qu'ils n'ont plus apporté. Ils se sont libérés. Saison Sèche, c'est une libération. La maison du patriarcat, la maison du patriarche s'effondre. Ces femmes devenues guerrières, Amazon et peut-être King, prennent possession d'un château et sont prêtes à en reconstruire un autre, ou d'autres formes, et peut-être se dire non, en fait, c'est pas le château qu'il faut. Peut-être qu'ils reconstruisent une ville. Alors j'offre cette idée que se défaire, démonter, ce n'est pas grave. On a besoin de démonter certaines choses.
Les femmes, au début de ce dernier spectacle intitulé Saison Sèche, en ce moment visible à la MC 93 de Bobigny, vivent sous un plafond bas. Ce plafond est si bas que l'air y est raréfié, qu'elles peuvent à peine respirer et qu'elles ne peuvent pas se lever. Petit à petit, elles vont apprendre les armes de ceux de l'autre côté, elles vont se travestir en hommes, ça ne leur conviendra pas. Et effectivement, plus le spectacle avance, plus on va se trouver dans une utopie de civilisation où elles possèdent peut-être les deux sexes. Mais d'ailleurs, vous les possédez?
Oui, mais je pense que tout le monde. Tout le monde. La grosse question, c'est que, et peut-être c'est ça l'enjeu dans une pièce comme celle-ci, ces sept femmes sont des femmes cisgenres. Elles ne se sont pas posées de questions d'identité, mais au fur et à mesure du travail, elles commencent à posséder des gestes et à comprendre que certains gestes qu'elles font sont des gestes qu'elles font par mimétisme et puis d'autres qu'elles peuvent apprendre. Ce qui est très dur, c'est plutôt une barrière mentale. C'est on ne veut pas reproduire les gestes de nos oppresseurs. Mais quand on commence à dire, oui, ok, les gestes des oppresseurs, c'est ça, mais ton oppresseur est aussi quelqu'un que tu peux aimer. Et quels sont les gestes que tu aimes? Ce que tu aimes de lui? Et d'un seul coup, on peut s'apercevoir qu'on peut les apprendre. Ça s'apprend. Finalement, on peut être l'autre. Je l'ai fait et d'autres le font. Et quelque part, c'est possible. Ça veut donc dire que pourquoi, si c'est possible, pourquoi on le ferait pas? Quel danger? Où est le danger? Alors bien sûr, peut-être que je vais lever une manifestation pour tous dès demain avec ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de danger. Dans cet endroit, Saison Sèche, cette femme se débarrasse de leurs conditions de soumission, se réapproprient leur corps par une sorte de danse où elles vont se débarrasser d'une manière très rituelle, d'une sexualisation de la peau, puisqu'elles se peignent la peau et le corps ne devient plus sexuel. Le corps devient presque guerrier, mais finalement enfantin. Et au fur et à mesure, le simple fait de porter, de s'investir, de se travestir et de porter les vêtements, elles vont commencer à s'imaginer. Celle qui voudrait devenir un sportif, celle qui voudrait devenir un golden boy, celle qui voudrait devenir un pompier. Et il a suffi d'observer pour qu'elles comprennent que c'était des postures. Ces postures-là sont celles les mêmes que une femme à telle position va avoir tel type de posture, tel type d'apparence, tel type de geste. Tout ça, c'est aussi la possibilité de l'artiste. Apprendre, jouer. Alors jouons plus que tout. Imprégnons-nous. Il faut s'imprégner. Et c'est l'idée, Saison Sèche, c'est de dire au moment où l'oppresseur n'arrive plus à distinguer qui il doit soumettre, peut-être qu'il va perdre raison, peut-être qu'il va ouvrir les portes, peut-être qu'il ne sait plus pourquoi il fait une telle oppression.
Eh bien, moi, je perds toute ma raison en voyant votre travail. Vive Fia Ménard et vive Saison Sèche, qu'on peut voir en ce moment même à la MC 93 de Bobigny, mais qui va partir pendant de nombreux mois pour une longue tournée. Merci infiniment, Fia Ménard. On va se quitter en écoutant Chelou. Out of sight, I'll be forgiven. In the forefront, I'm forced to break away. I'm trying to be someone, but I don't even know what that means. I'm trying to do something, but I don't even know what that means. Out of sight. Merci à toutes et à tous. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Anne-Sophie Dazar, Élodie Royer et Antoine Joubert qui ont préparé cette émission qui a été réalisée par Lilian Allôme. Après le journal de la rédaction, vous retrouverez bien sûr l'ami Mishka pour son Very Very Good Trip.